Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue donc dans Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Daniela Franco de la rédaction brésilienne.
Buonanotte.
Pour la rédaction chinois, Hermine Rumilac.
Nihao.
Et David Coffey de la rédaction en anglais.
Good evening.
Bonsoir à vous tous et toutes. Ce qui fait la une de l'actualité, ce sont les sommets internationaux qui se tiennent actuellement. Il y a la rencontre annuelle sur la sauvegarde du climat qui se tient en Azerbaïdjan pour encore quelques heures, ce qu'on appelle aussi la COP29, alors que dans le même temps se tenait le G20 au Brésil, le G20 qui regroupe les principaux pays industrialisés. David, les dirigeants des 20 économies, les plus riches du monde, se sont retrouvés sous pression pour sortir de l'impasse sur le financement du climat lors des négociations de la COP, justement, qui sont dans l'impasse. En tout cas, qui sont décevantes.
En effet, la réunion du G20 au Brésil semblait être liée de tout ce qui se passait lors des négociations sur le climat de la COP29 à l'autre bout du monde, ou à l'autre bout de la planète, en Azerbaïdjan. Dans une déclaration publiée à Rio de Janeiro, les dirigeants du G20 ont réitéré leur soutien à la conclusion d'un accord à Bakou, où la première semaine des négociations s'est soldée par une impasse amère. Il s'agit toutefois d'une réponse tiède à l'effondrement imminent des systèmes météorologiques mondiaux. La déclaration ne reprend pas explicitement l'engagement pris l'an dernier lors de la COP28 à Dubaï de sortir des énergies fossiles, un sujet qui a suscité des tensions à Bakou.
Alors Daniela, le G20 à Rio était considéré par le Brésil comme une opportunité de redevenir un protagoniste sur la scène internationale après l'isolement du pays quand Jair Bolsonaro présidait. Mais ce qui se passe dans le monde a quelque peu terni cette ambition. Entre crise climatique, on vient de le dire, menace nucléaire, retour de Donald Trump, que penser de la déclaration finale?
Il est intéressant, Philippe, d'observer les différentes impressions à propos de la déclaration finale du G20. Du côté de l'Europe, le texte est décevant. Il ne condamne pas directement l'agression russe en Ukraine, par exemple. Même le président Macron souhaitait que le texte soit plus explicite, mais le document évoque des initiatives pertinentes et constructives pour la paix et des relations pacifiques entre les nations. Sur le climat, la sensation est la même ici en Europe. Pendant que la COP29 piétine à Bakou, la déclaration finale du G20 se limite à mentionner la nécessité d'augmenter la finance climatique à des milliers de milliards. La sortie progressive des émissions fossiles, qui était dans le texte final de la COP l'année dernière, n'a pas même été mentionnée sur la déclaration finale du G20.
Hermine, le président chinois est-il, au bout du compte, le seul gagnant de ce sommet, de ce G20?
À part ce que vous venez de dire, ce sommet a encore une fois montré la grande mésentente entre les Occidentaux et les pays émergents du Sud, dont la Chine est considérée comme l'un des leaders, si ce n'est pas le leader économique, politique et géopolitique. Car sur tous les sujets fondamentaux planétaires, que ce soit les conditions, les conflits en cours ou les réchauffements climatiques, la voix de Pékin compte plus que jamais. D'ailleurs, pour éviter d'afficher le discorde des participants sur les conflits, le président brésilien Lula da Silva a choisi d'escamoter des sujets sensibles pour ne pas fâcher ni Pékin ni Moscou, qui sont les alliés de Brasilia dans le groupe des pays émergents, dit BRICS, qui lui a clairement l'ambition de concurrencer avec G7 ou G20. Des clubs, les pays considérés comme les clubs des pays les plus riches à moyen ou à long terme.
David, vous êtes également intéressé au déplacement qu'a également effectué Emmanuel Macron en Argentine.
Tout à fait, Philippe. Nous voulions absolument mettre l'accent sur la visite de Macron en Argentine et sa tentative de mettre le président Javier Milei de son côté, entre guillemets, avant le G20. Un homme connu pour sa politique ultra-libérale et son admiration pour le président élu américain Donald Trump. Cette visite était d'autant plus significative qu'elle intervenait juste après la rencontre de Milei avec Trump dans son Mar-a-Lago en Floride. Compte tenu du climat politique actuel, Macron cherchait à combler le fossé entre leurs points de vue divergents, notamment en ce qui concerne les politiques environnementales, et à encourager la poursuite de la participation de l'Argentine au cadre international de coopération qui représente le G20.
David, s'agissait-il donc d'un pari politique pour le président français ?
On peut se le dire. Étant donné le récent retrait de l'Argentine des négociations sur le climat à Bakou, cela a suscité des inquiétudes quant à l'engagement de Milei envers l'accord de Paris sur le climat de 2015. Une situation qui rappelle le retrait de Trump lors de sa précédente présidence. Mais apparemment, c'est Milei lui-même qui a tendu la main pour établir des relations avec la France, positionnant Macron comme l'un des rares dirigeants étrangers désireux de s'engager avec les dirigeants d'Argentine.
Daniela, comme attendu, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur n'a pas été signé à Rio, hein, il faut le savoir.
Avant le sommet du G20, ouais. Philippe, on s'attendait à que l'accord soit signé à Rio, mais pendant le sommet, on a eu la certitude que cela ne se passerait pas, au moins pendant le G20. La forte opposition de la France a réussi à bloquer les dialogues sur l'accord Rio, mais les pays sud-américains gardent donc l'espoir de signer ce texte pendant le sommet du Mercosur, maintenant en décembre, Philippe.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$100.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
C'est une information du service anglais de RFI. Au moins 6 soldats russes ont trouvé refuge en France après avoir déserté la guerre en Ukraine. Ils se sont enfuis par le Kazakhstan. David Coffey, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des dizaines de milliers de soldats russes ont déserté ou ont refusé d'obéir aux ordres. Tout cela selon des militants des droits de l'homme et des groupes qui aident ceux qui fuient la guerre.
Oui, selon l'association anti-guerre Get Lost, également connue par sa traduction russe directe Aller par le forêt, leur voyage de champ de bataille de l'Ukraine jusqu'à leur refuge à Paris a été un long processus et l'octroi de permis de séjour temporaire par la France a été une affaire compliquée qui pourrait néanmoins créer un précédent pour d'autres pays de l'Union européenne qui souhaiteraient offrir l'asile un des déserteurs russes. Get Lost a joué un rôle essentiel en aidant les soldats russes à échapper à la conscription et à déserter l'effort de guerre de Moscou depuis l'invasion de 2022. Moi, j'ai parlé à Ivan Tchouvilyaev, un porte-parole de Get Lost en exil en Espagne, qui me racontait comment son organisation a aidé 3 des 6 soldats à rejoindre Paris.
We help these guys, 3 of them, of these 6 guys. We help them to leave the country and to leave the front line.
Que raconte cet homme ?
Bon, Tchouvilyaev m'a expliqué, nous avons aidé ces hommes, nous les avons aidés à quitter la ligne de front. Nos collègues du Kazakhstan, des organisations de défense des droits de l'homme, les ont aidés à rester en sécurité là-bas. Selon lui, les déserteurs ont ensuite créé leur propre organisation appelée L'Adieu aux armes, inspirée du roman de 1929 d'Ernest Hemingway, pour aider les gens à trouver une solution à leur situation. La partie la plus importante de notre travail, selon lui, consistait à communiquer avec les fonctionnaires français et européens. Donc voilà, M. Tchouvilyaev, il a vraiment aidé ces gens.
Il y a également eu un processus de vérification hein, pour s'assurer que les soldats étaient de vrais déserteurs et qu'ils n'étaient pas impliqués dans des crimes de guerre.
Effectivement, en effet, Tchouvilyaev m'a également dit qu'il n'y avait aussi, il y avait aussi un groupe au Kazakhstan qui examinait chaque cas avant que les soldats ne soient évalués et approuvés avant d'être amenés en France.
The verification was quite complicated. There was 2 verifications at least, because 4 we help.
Aidez-nous à comprendre.
Il nous dit que le processus de vérification était assez compliqué. Il y avait au moins 2 évaluations pour chaque déserteur, chaque soldat russe. Selon lui, j'ai eu des conversations avec eux juste pour obtenir autant d'informations que possible. On vérifie qu'ils n'ont pas participé, à une opération militaire contre des civils. Donc, bien sûr, ils peuvent avoir participer aux opérations militaires, mais pas contre des civils même.
Il faut savoir aussi que Moscou a puni sévèrement les 4 désertions.
Oui, le président Vladimir Poutine a récemment promulgué des lois plus strictes, augmentant les peines de prison pour les déserteurs en fuite jusqu'à 15 ans et en autorisant la confiscation de leurs biens. Et pour les déserteurs ou dissidents russes à l'étranger, le Kremlin est notoirement très accessible. Une fois hors du pays, ils doivent encore faire face à d'énormes difficultés, comme l'explique Tchouvilyaev.
The fear is something we faced during all our life. We are Russian.
Il parle de peur.
Il parle de la peur. La peur est quelque chose à laquelle nous sommes confrontés tout au long de notre vie. Nous sommes Russes. En tant qu'une personne née en Russie, je ne cesserai jamais de craindre les personnes en uniforme militaire. Je ne cesserai jamais de craindre les policiers, même ici en Espagne, il dit. Même les personnes qui se trouvent aujourd'hui à Paris ont toutes été arrêtées au moins une fois par la police au Kazakhstan. Il n'y a aucun pays au monde, il dit, où les militants russes de droits de l'homme, les journalistes, les déserteurs ou qui ont que ce soit d'autres peuvent se sentir en sécurité.
Voilà pour cette enquête. David Coffey de la rédaction anglophone de RFI. Au Brésil, l'émotion est grande après la révélation d'un plan de coup d'État et de meurtre du président Lula et du président de la Cour suprême, orchestré par des personnalités et des militaires de l'entourage de l'ancien chef de l'État, Jair Bolsonaro. Daniela Franco, de la rédaction brésilienne, Bolsonaro était donc au courant de ce plan ?
Et oui, Philippe, effectivement, l'ex-président Bolsonaro est soupçonné d'être au courant de ces mauvais coups. Les premières arrestations se sont passées pendant le sommet du G20, quand le projet a été révélé par la presse brésilienne. Les plans devaient être exécutés en décembre 2022, avant l'investiture de Lula et de son vice-président. Après le meurtre, les militaires participant de ce projet voulaient instaurer un état d'exception et Bolsonaro aurait été maintenu à la tête du pouvoir. Des brouillons de l'organisation de ces projets ont été retrouvés par la police et les détails sont vraiment hallucinants. Les participants devaient utiliser des armes de guerre comme des fusils, des grenades et Lula serait empoisonné, Philippe.
Et on sait qui est impliqué dans ce complot ?
Il y a des militaires haut placés et même le candidat à vice-président de Bolsonaro, Braga Neto. Le principal accusé du projet de meurtre s'appelle Mário Fernandes. Il était secrétaire exécutif de Bolsonaro pendant son gouvernement et il aurait planifié les assassinats de Lula, du vice-président Alckmin et du président de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes. Fernandes a été détenu 7 semaines avec 3 autres militaires et un policier fédéral, accusé d'association criminelle, de tentative de coup d'État et d'abolition violente de l'état des droits. Ils peuvent être condamnés à 23 ans de prison. Ce sont au total 37 inculpations avec des personnalités importantes comme l'ex-ministre de la Justice de Bolsonaro, l'ex-commandant des forces navales et l'ex-directeur du service d'intelligence du Brésil.
Alors, assassinat, coup d'État, comment est-ce que réagissent les Brésiliens à ces révélations ?
Il faut savoir que depuis la destitution de la présidente Dilma Rousseff en 2016, le Brésil vit une polarisation politique immense. Donc, il y a une partie du pays qui reconnaît la gravité des faits et qui est choqué de presque avoir vécu un autre coup d'État, parce qu'on a déjà vécu un coup d'État en 1964 qui a eu comme conséquence plus de 20 années de dictature au Brésil. Par contre, l'ex-président d'extrême droite a un noyau dur de sympathisants. Donc, pour ses sympathisants, la révélation de ce projet est un complot contre Bolsonaro. Il se réaffirme, par ailleurs, comme candidat pour les présidentielles de 2026, même s'il ne peut pas se présenter, car il a été déclaré inéligible l'année dernière, et cela pendant 8 ans, pour abus de pouvoir et pour aussi utilisation abusive des médias.
Et sur cela, cette semaine, vous avez interviewé un politologue.
Exactement, il s'appelle Cláudio Couto. On va l'écouter.
É muito impressionante realmente a ousadia que tiveram, né, esses militares ligados ali ao governo Bolsonaro.
Alors, ce politologue est de la Fondation Getúlio Vargas de São Paulo. Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit qu'il est impressionné, mais il n'est pas surpris avec ce projet. Il rappelle que Bolsonaro n'a jamais caché l'idée de rester au pouvoir. Il s'est entouré d'un groupe de golpistes, c'est-à-dire des escrocs. Le politologue met en avance toutes les initiatives de Bolsonaro et de son entourage pour empêcher la réalisation des élections au Brésil et même l'incitation de la foule des partisans qui a résulté à l'invasion du siège de la présidence, du Congrès et de la Cour suprême en 8 janvier 2023. Donc, pour Couto, la situation est inquiétante, mais elle n'est pas surprenante, Philippe.
Alors, après ces révélations, quelles peuvent être les conséquences, notamment pour Bolsonaro ?
Il peut être emprisonné de façon préventive si la justice considère qu'il peut s'enfuir, comme il l'a fait déjà en 2022, quand il a voyagé aux États-Unis, où il a passé 3 mois avant de revenir au Brésil. Elle court le risque d'être condamnée à presque 30 ans de prison et d'avoir son inéligibilité prolongée, Philippe.
Et maintenant, dites-nous comment a réagi le président Lula, qui était l'objectif.
Lula s'est prononcé publiquement sur ses projets hier. On va l'écouter.
Et depois, eu sou cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu tô vivo.
Que dit le président brésilien?
Lula s'est dit soulagé d'être vivant. Il affirme que la tentative de meurtre n'a pas marché. Il rappelle que quand il a disputé les dernières élections, son désir était que le Brésil récupère sa civilité démocratique. Et Lula considère donc que le Brésil est en train de vivre un moment historique avec toutes ces investigations.
Philippe. Daniela Franco de la rédaction brésilienne de RFI. Avec la rédaction chinoise, revenons maintenant sur le verdict de l'affaire des 47. C'est à Hong Kong. Il s'agit de la première affaire de subversion de la sécurité nationale après la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale en juillet 2020. Hermine Roumila de la rédaction chinoise. Donc, pour que l'on comprenne bien l'importance de tout cela, il faut resituer les choses.
Oui, on doit remonter le temps pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Peut-être vous vous rappelez encore, c'était en juin 2019. Hong Kong est devenu le centre d'attention mondiale des manifestations gigantesques, d'abord pacifiques, puis violente contre l'amendement de la loi d'extraction par le gouvernement de Hong Kong et aussi pour réclamer plus de liberté et de la démocratie était à la une de tous les médias.
Et la répression avait été violente à l'époque.
Oui, tout à fait. Mais l'écrasante victoire des candidats pro-démocratiques aux élections locales organisées en novembre 2019 a montré l'attitude et l'inquiétude du peuple hongkongais face à l'avenir sombre de l'île ainsi que le rejet du pouvoir sur place. C'est justement avec cette victoire qui a germé l'affaire dite de 47 personnes. Parce que le camp pro-démocratique voulait profiter de cet élan populaire pour faire entrer le plus grand nombre de députés au Conseil législatif. Pour d'abord limiter le pouvoir du gouvernement contrôlé par Pékin, mais aussi pour limoger le gouverneur si c'est nécessaire. Dans cette perspective, les campagnes de primaire ont été organisées pour choisir les meilleurs candidats pour législatif.
Ouais, cela dit, Pékin n'est pas resté immobile. Hein.
Non, pas du tout, parce que la fameuse loi dont vous parlez sur la sécurité nationale de Hong Kong a été passée juste avant les primaires, c'est-à-dire en juin 2020. Malgré les investissements et les menaces du gouvernement, les primaires ont quand même eu lieu, mais 53 personnes, des leaders pro-démocratiques ou participants actifs, ont été arrêtés en janvier 2021 au motif d'une violation présumée de la loi sur la sécurité nationale. 47 personnes d'entre elles ont ensuite été inculpées. 3 ans et 8 mois se sont écoulés entre les poursuites judiciaires et la condamnation finale de 45 personnes ce mardi, allant de 10 ans de prison à 4 ans et demi d'emprisonnement.
Les réactions à tout cela, les réactions dans le monde sont nombreuses. Hein,
oui, très très nombreuses. Beaucoup de pays ont condamné ce résultat judiciaire considéré comme politique et antidémocratique. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que tout à l'heure on a parlé de G20. Justement, ce verdict est tombé au 2e jour de ce sommet à Rio, où les dirigeants des pays occidentaux ou parcs-occidentaux ont salué tous les uns et les autres les efforts de président chinois sans dire un mot en face de lui pour plaider à la faveur. Je cite seulement le premier ministre anglais parce que c'était l'ancien colonie de Hong Kong.
Ouais.
Oui, donc il a rencontré Xi Jinping le 18 novembre. Quand les députés lui ont demandé pourquoi il s'est incliné devant Pékin, le premier ministre britannique, M. Keir Starmer, s'est défendu en affirmant que le dialogue avec Chine visant à rendre le monde plus sûr. Ça en dit long.
Une question rapide, une réponse rapide. Quel est l'avenir pour Hong Kong dans tout cela?
L'avenir pour Hong Kong, si on écoute le secrétaire, Monsieur Dai Yaoting, qui est le juriste professeur de droit de l'université, il a dit une phrase avant sa condamnation. Il dit « Hong Kong est rentré dans un hiver froid. Le vent qui souffle sont violents et est froid. » Et si on écoute le secrétaire de la sécurité de Hong Kong, Monsieur Deng Yaoqian, on peut mieux comprendre ce dont il est inquiet. Rapidement, il a dit « La lourdeur de la peine vise à envoyer un message clair à la communauté. Tout acte menant à empirer la sécurité nationale, y compris les subversions de pouvoir de l'État, ne sera pas toléré. »
Ouais, on voit là ce qu'on pouvait dire dans l'accent du monde sur la situation à Hong Kong.